se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à demain, le kilo de grosses crevettes est à seulement 7,49€.
À ce prix-là, je vais en faire tout un plat.
De quoi vous faire de belles assiettes. D'ailleurs, vous m'en garderez une, hein ?
Bien sûr que oui.
Auchan, avec plaisir. 7,49€, le kilo de crevettes entières cuites réfrigérées. Penaus Vanamei, 25 à 35 pièces au kilo. Élevé en Équateur. Liste des magasins Auchan équipés d'un rayon marée traditionnel sur Auchan.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés.
Vous écoutez
RMC. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Alain Boer, merci Bonjour. D'être dans ce studio ce matin. Vous êtes le directeur du pôle sécurité, défense, renseignement au CNAM et vous êtes spécialiste des questions de sécurité. Elisabeth Borne qui a parlé d'un sentiment que les violences augmentent. Vous allez nous dire dans un instant si c'est un sentiment ou une réalité puisque vous avez compilé, et c'est inédit, vous nous le révélez ce matin, les premières tendances de la violence en 2023, les chiffres très concrets. Mais je voudrais d'abord vous parler de ce qui se passe à Issou, dans les Yvelines. Des professeurs très angoissés qui exercent leur droit de retrait. Ils évoquent une mécanique proche de l'engrenage qui avait entraîné l'assassinat de Samuel Paty. C'était jeudi, en cours en sixième, une professeure de français qui évoque l'histoire de l'art et qui présente... parmi les tableaux de l'histoire de l'art, un tableau du XVIIe siècle sur lequel on voit plusieurs femmes dénudées. Des élèves s'offusquent, se retournent, se voilent les yeux, et puis même des parents qui se plaignent, disent que les convictions religieuses de leurs enfants ont été offensées. Depuis Samuel Paty, qu'est-ce qui a été fait ?
Beaucoup de commémorations, beaucoup de commisérations et une absence totale de capacité à prendre en main ce qui est non pas la neutralité, mais la dynamique qu'est la laïcité. En fait, l'État s'est inventé l'idée que la laïcité, c'était neutre. Ça regardait de loin la vie des religions et ça donnait juste un service public à minima. Ça n'a jamais été le cas. C'est une réinvention de laïcs de circonstances qui n'ont jamais compris ce qu'était la loi de 1905, qui ne l'ont pas lue, qui en général la commandent sans jamais l'avoir comprise et qui n'ont rien compris à ce qu'est la nature de la protection du droit de croire, de ne pas croire, de changer de religion et surtout d'un espace public qui permet à chacun de voir ce que la religion lui aurait interdit de regarder et d'en faire dans sa propre conscience, dans sa propre liberté de conscience, le choix d'être convaincu que les éléments qui sont ceux de sa tradition ou de sa famille l'incitent à ne pas évoluer, et tant mieux, à changer, pourquoi pas, à choisir une autre voie. Bref, c'est tout cela qu'est la laïcité.
La différence, c'est la liberté, l'espace de liberté que doit être l'école.
Oui, c'est l'espace où on apprend tout et où rien n'est interdit. Et où on apprend autant la science, et je rappelle que la science arabe a été un élément absolument déterminant dans l'histoire de la science, où on apprend l'art, où on apprend la capacité à... Bref, l'espace privé, c'est l'espace privé. Et la rééducation, non seulement des parents, mais des enfants. Le dernier sondage fait récemment montrant qu'entre 65 et 75% des parents ou enfants d'origine musulmane considèrent que la religion est supérieure à tout, qu'il y a des interdits.
Vous faites référence, et je vais le dire très précisément pour que tout le monde sache de quoi il s'agit, un sondage IFOP qui a été publié vendredi, qui a interrogé les musulmans de France. Ils sont en effet 76% à penser que c'est plutôt la religion qui a raison lorsque la religion et la science s'opposent, notamment sur la question de la création du monde. Et ils sont 57% à revendiquer le droit des filles à ne pas assister aux cours de natation pour des raisons religieuses et encore 50% à revendiquer le droit des élèves à, je cite, ne pas assister aux cours dont le contenu heurterait leurs convictions religieuses. C'est de cela qu'il est question dans ce collège des Yvelines.
Exactement. Et il se trouve que la plupart de ceux qui ont cette position l'ont au nom des libertés qu'accueille une démocratie et une république contre la France, qui est exactement l'inverse des obligations qui existent dans la plupart de leurs pays d'origine. Et donc, je ne suis pas pour créer une sorte de dictature laïque, mais il y a un moment où les règles qui sont le contrat qui existe entre la société, l'école et l'État imposent le retour à une certaine forme d'acceptation de l'obligation d'aller, de s'éduquer.
Mais ça n'est pas redit, c'est-à-dire qu'il y a eu quand même évidemment la mort de Samuel Paty, il y a eu la mort ensuite de Dominique Bernard à Arras. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore un flou où...
Non, l'État dit des choses assez justes, le ministre de l'Éducation en particulier. On sent qu'on est passé plutôt dans une forme d'affirmation, mais l'application, elle reste encore relativement floue. Les moyens sont effectivement faibles, et puis surtout, on sent bien que la pratique du système éducatif, du mammouth, c'est d'éviter les emmerdements plutôt que d'affirmer la laïcité. Alors, on comprend les problématiques, hein, la part
les
de
professeurs
personnes...
de ce collège disent qu'ils font face depuis la rentrée, je cite, à de multiples dénonciations calomnieuses de la part d'élèves ou de parents hein, vis-à-vis des professeurs, des personnels qui sont accusés de propos injurieux, d'insultes, de menaces envers les élèves, d'agressions sexuelles ou encore de non-assistance à personne en danger. Et tout cela se révélant après enquête faux, tout comme les critiques qui ont été faites à l'endroit de ce professeur, de cette professeure de français qui se dit aujourd'hui menacée. Le problème, c'est que tout cela est remonté au rectorat et que le rectorat n'a jusqu'à présent pas réagi.
C'est-à-dire que soit ils réagissent à côté, soit ils réagissent pas.
Le ministère ce matin promet plus de moyens, mais jusqu'alors, oui. Il n'avait pas réagi.
Oui, c'est un problème de l'ensemble de la structure éducation nationale. Elle a décidé, pour des raisons administratives, d'éviter les problèmes plutôt que de les affronter. Alors, il y a des raisons historiques à cela. Il y a une sorte de remords colonial permanent de Wokistan qui s'imprime aussi dans l'idée que, en fait, toute dénonciation est légitime parce que c'est une dénonciation entre guillemets racisée. Etc. Mais dans la réalité, l'application de la laïcité, c'est ça qui garantit la liberté. Ce que tous ceux qui ne soutiennent pas la laïcité ne comprennent pas, c'est qu'ils sont en train de créer leur propre camp de concentration futur, car ils n'auront plus aucune liberté.
Un camp de concentration futur ?
Bien sûr. L'application stricte de tout ce que la religion impose, ça s'appelle l'inquisition. L'inquisition,
et c'est
pas la liberté.
C'est ça qu'on va si on n'y met pas fin tout de suite.
En tout cas, si on n'y résiste pas. Le problème, c'est la résistance. Mais la résistance, elle passe par la pédagogie, par le dialogue, par la compréhension. La plupart de ceux qui font ça ne le font pas par une volonté d'obstruction ou de combat contre la République. Ils le font par ignorance, par une certaine forme de fatalisme, et puis aussi par le fait que jusqu'à présent, on devenait français par le courrier. L'éducation à la citoyenneté se faisait partiellement pour les enfants, mais assez peu pour les parents. Bref, on est dans un processus où nous n'avons pas eu de politique d'intégration pendant de très nombreuses années, quasiment 50 ans, avant de découvrir que quand on n'a pas de politique d'intégration, eh bien les gens ne s'intègrent pas.
Alain Bauer, je cite d'ailleurs Michaël Paty, la sœur de Samuel Paty, qui lors d'un hommage à son frère disait que les règles n'étaient pas suffisamment claires sur la laïcité, et elle a cette phrase, on ne tient jamais droit dans des pantoufles. Parlons des violences, puisque vous avez compilé, Alain Bauer, les chiffres officiels et non officiels, et surtout ceux qui sont dans différents tuyaux, c'est-à-dire qu'il y a le tuyau des homicides, il y a le tuyau des tentatives d'homicide. Vous avez compilé tout ça et vous allez nous révéler, et c'est inédit, les chiffres de la violence 2023. Vous avez entendu Elisabeth Borne, la première ministre, qui dit « Il y a un besoin évident d'autorité », le disait dans le Figaro cette semaine, et de sécurité, notamment dans les villes moyennes, les campagnes qui ne sont pas épargnées par ce sentiment que la violence augmente. Est-ce un sentiment ou une réalité ?
C'est un climat. L'insécurité, c'est un climat. Il n'y a pas de sentiment, hein. C'est pas amoureux, ça relève pas des problématiques psychopathologiques du moment. C'est un climat. Le climat d'insécurité, il se construit sur la violence et seulement sur la violence. C'est ça qui crée le stress post-traumatique, l'affrontement avec un agresseur. Tout le reste, on le subit, mais on n'en est que spectateur. Un cambriolage, un vol de véhicule ou un vol dans un véhicule, c'est désagréable, mais on n'y était pas en général. L'augmentation de la violence physique, et ça, c'est ce qui fait la différence. Or, depuis désormais une quinzaine d'années...
Augmentation, donc pardon, je reprends la phrase exacte d'Elisabeth Borne, quand il dit il y a un sentiment que la violence augmente. Pour vous, il y a une augmentation réelle et pas un sentiment des violences physiques.
Oui, je publie tous les ans, en début d'année, l'état de l'année précédente, autour essentiellement des violences physiques, et les violences physiques les plus clairement identifiées dans le code pénal, c'est ce que j'appelle les homicidités, ce sont des indicateurs qui sont retenus par les services de police et de gendarmerie au moment où un événement se produit. Ces indicateurs sont publiés, et donc
vous les avez sous les yeux.
J'ai mis à jour les 11 premiers mois. Donc sur les 11 premiers mois, l'année dernière, par rapport à l'année dernière au même moment, en novembre, il y a 18 000 violences supplémentaires et 64 homicides supplémentaires. À la fin de cette année, il y aura probablement un des taux les plus élevés de violence, puisqu'on devrait atteindre, avec un peu de malchance, 350 ou 360 000 violences volontaires, c'est-à-dire 20 000 de plus, et probablement un niveau d'homicide qui rejoindrait, qui dépasserait les 900. Les homicidités.
C'est en nette augmentation
environ, par rapport à il y a un an. Environ 10%.
Plus 10% de violence.
À ce moment précis. Donc, si on rajoute les tentatives d'homicide, que je ne pourrai dépouiller qu'en janvier prochain, on restera à un niveau supérieur à 4000 faits de violence physique enregistrés. En plus, enfin, et par ailleurs, il faudra prendre ce qu'on appelle l'enquête de victimation, ce qui n'est pas déclaré. Et dans ce cas, 90% des violences sexuelles et physiques à l'intérieur des foyers ne sont pas connues des services de police parce que les femmes et les enfants, les mineurs, ne les déclarent pas par peur, par crainte, par honte.
Donc ça veut dire que ça n'est que ce qu'on connaît, ça n'est que la phase visible.
C'est la phase émergée de l'iceberg.
Alain Boer, qui commet ces violences? Où est-ce que ça augmente le plus?
Alors, l'endroit où on est aujourd'hui le plus en situation de déséquilibre, ce sont les îles, Martinique, Guadeloupe, un peu moins Réunion, Guyane, qui n'est pas une île, mais qui est un outre-mer. Évidemment, Mayotte, qui est un sujet extrêmement pointu, à la fois pour la crise de l'eau, la crise de l'immigration et la crise de la violence sur place. Et ensuite, en fonction du niveau de criminalité, ça dépend beaucoup des territoires. Le vol, la prédation sont plutôt orientés à l'ouest et dans les villes. Les violences sont plutôt orientées autour des villes, mais sont en train de s'étendre à cause du trafic de stupéfiants dans des petites et moyennes agglomérations. Donc on a aujourd'hui des mouvements assez importants des violences physiques, mais toutes les cartographies ne sont pas identiques. La cartographie du vol et du cambriolage n'est pas la même que celle du vol avec violence ou des homicides et des homicides. La cartographie du trafic de stupéfiants n'est pas la même que la cartographie de l'immigration clandestine, par exemple.
Précisément, quand Elisabeth Borne parle des villes moyennes, je la cite à nouveau, hein, parce que c'est cette phrase qui est la référence, il y a un besoin évident d'autorité et de sécurité, notamment dans les villes moyennes et les campagnes, qui ne sont pas épargnées par ce sentiment que la violence augmente. Est-ce que la violence augmente particulièrement dans, pour la cité, villes moyennes et campagnes?
En fait, la violence augmente partout. C'est-à-dire que des endroits qui étaient épargnés ne le sont plus. On l'a vu par exemple lors des émeutes après la mort de Naël. Une partie des endroits qui avaient été épargnés par les émeutes de 2005 ont été rejoints par les émeutes de 2023. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'espace épargné ni par l'émeute, ni par la destruction de mobilier ou d'établissements publics ou d'équipements urbains, ni par la violence, ni par le trafic de stupéfiants. Il y a une généralisation, une sorte de vague de la violence à laquelle tentent de résister effectivement les élus d'un côté et les services de police ou de gendarmerie de l'autre, mais dans une situation de dégradation accélérée. Donc non, il n'y a pas de sentiment d'insécurité, il y a un climat de violence et ce n'est pas la même chose.
Et cette question aussi de la jeunesse, vous évoquiez à l'instant les émeutes qui avaient suivi la mort de Naël. Parmi les émeutiers, parmi ceux qui ont été jugés en comparution immédiate très rapidement après, environ 1500 personnes, 1180 mineurs identifiés comme auteurs d'infractions. 40% de ces mineurs, donc des garçons, pour la quasi-majorité, pour la majorité, mais pour la quasi-totalité, pardon. Et surtout, des mineurs, mais des mineurs très jeunes, puisque 40% de ces mineurs-là ont entre 13 et 15 ans. C'est plus jeune que ça n'était.
Non, c'est revenu au niveau où ça était. Ah. Car en fait, le moment de l'adolescence que nous avons créé de toutes pièces, hein, ce n'est pas un moment biologique, c'est un moment social.
Bon, il y a quand même un débat là-dessus. Hein. Il y a une question aussi biologique de la puberté.
Oui,
de...
c'est à 13 ans. Hein. C'est plus tard, hein, la puberté.
Ce que vous voulez dire, c'est qu'on a,
on a inventé un espace social entre 13 et 18.
Oui, alors qu'en réalité, c'est 13.
Et on à 13 ans, d'habitude, on était majeur, on allait travailler, on héritait, on devenait noble. Enfin, on avait une activité. Nous avons très légitimement inventé pour des raisons de scolarisation et de socialisation. 21, etc. Mais on avait cet espace qui était censé être un espace de pacification et de gestion de ce moment de transformation qui est la puberté, l'adolescence et voilà. En fait, ce moment a pacifié les mœurs pendant un certain temps. Puis on a vu l'arrivée des blousons noirs. Ça date pas de la semaine dernière.
C'est quoi, c'est les années 60?
60, 70. Et puis ensuite, on a eu une reprise, et puis on a eu l'épisode Sauvageon. Salut Jean-Pierre Chevènement. Et donc, on a toujours ce débat. Et si vous voulez aller voir les Apaches des années 1900 ou Casque d'or avec Simone Signoret, qui est à la fois un document, c'est un docu-fiction, hein, c'est un peu comme ce que j'écris. C'est un peu un moment où on voit que on comprend ce qu'est le passage justement à la violence par la puberté, par l'adolescence, etc., par l'affirmation de soi. On est dans un processus qui est tout à fait qui n'est pas nouveau.
Ça n'est pas nouveau. Ça avait été moins le cas.
Voilà. Exactement.
Et c'est un retournement de tendance des jeunes très jeunes.
C'est un retournement de tendance sur l'augmentation de la violence. C'est un retournement de tendance sur la jeunesse de ceux qui passent à l'acte, y compris pour n'importe quoi, un survêtement, un regard ou une capacité d'agresser quelqu'un, une femme enceinte chez elle en l'étranglant jusqu'à ce qu'elle tombe dans les pommes pour la voler, simplement parce qu'il n'y a plus de limite.
Ce sont des faits récents que vous décrivez là. Vous parliez de ce survêtement, vous faisiez évidemment référence à Valenton. Vendredi, un jeune homme de 17 ans qui a été tué d'un coup de couteau alors qu'il était dans l'échange, justement, et normalement la vente de son survêtement sur Vinted. Ça veut dire que on est plus jeune que ces dernières années, hein, j'ai bien compris qu'on renouait avec il y a quelques années, mais qu'on est plus jeune et plus violent.
Et plus immature. En fait, on fait la télé-réalité de soi-même. En fait, la TikTokisation, c'est une exaltation à la fois d'un moment très fort, très dur, très violent et totalement immature. C'est-à-dire que tout pour exister, pour faire le buzz, quitte à tuer et ensuite s'en réjouir.
Qui est responsable ? Est-ce que les parents doivent être responsables ? Aurore Berger a parlé de parents défaillants qu'elle décide de pointer du doigt et de faire payer pour les crimes de leurs enfants.
J'ai jamais eu le sentiment qu'en punissant les parents, on réglait le problème des enfants. Je pense qu'il faut aider les parents et que les parents, ils sont pas démissionnaires, ils ont été licenciés.
Ils ont été licenciés, ça veut dire quoi ?
Par leurs enfants.
Par qui ?
Par leurs enfants, puisque on dit aux parents qu'ils n'ont pas le droit de punir, qu'ils n'ont pas le droit de sanctionner, qu'il faut respecter l'épanouissement des enfants, qu'en fait la règle c'est mauvais.
C'est quoi ? C'est l'éducation positive.
Non, c'est un moment post-68.
Pas de punition.
Pas de punition, pas de notes, pas de règles. Tout va bien se passer à la fin. À la fin, l'épanouissement va créer un individu citoyen naturel. Tout ça n'existe pas. S'il n'y a pas de règles, alors il y a des moyens de faire respecter les règles, mais la création de la règle est indispensable. Et pour cela, il faut aider les parents.
Mais ça veut dire, Alain Bauer, que vous dites qu'il ne faut pas les punir, il faut les accompagner, il faut les aider, il faut leur redonner les outils pédagogiques.
Les outils pédagogiques, les outils sociaux, l'accompagnement, y compris humain, le fait de ne pas expulser les élèves de l'école, mais les réinsérer dans un système scolaire. Les emmerdeurs, quand ils sont dehors, ils font des bêtises, ou des conneries, comme on dit. Donc, il ne faut pas les mettre dehors. Et donc, tout notre système est passé sur la punition et l'exclusion. C'est une erreur majeure de compréhension. Certains parents doivent être punis, ceux qui prostituent leurs enfants. On a des cas récents, ceux qui battent leurs enfants. Bien sûr, ils doivent être punis, mais les autres,
mais ils ne doivent pas être punis pour la défaillance de leurs enfants.
Surtout quand vous êtes...
Serge Effèze, le psychiatre, dit il faut aider les familles à restaurer, je cite, des processus d'autorité qui sont aujourd'hui mis à mal. Vous dites la même chose.
Exactement.
Sur la question aussi de la responsabilité des pères absents, c'est un des points sur lequel veut insister Aurore Berger. Elle dit les pères sont absents, ils ne peuvent pas être juste démissionnaires. Il faut notamment les obliger à être là si leurs enfants font face à un tribunal, c'est-à-dire sanctionner, y compris par des amendes, les parents qui ne viendraient pas lorsqu'il y a une comparution de leurs enfants.
Pourquoi pas ? Ça peut faire partie d'un objet pédagogique plus intéressant que la suppression des allocations familiales ou la punition financière sèche. On peut dire qu'il y a derrière ce que dit Madame Berger un espace pédagogique sur l'acceptation de la responsabilité. Mais en même temps, si le père est totalement absent, le fait qu'il vienne au tribunal ou pas peut avoir des effets pervers assez...
C'est-à-dire ?
Le fait qu'il corrige l'enfant physiquement, ce qui
vous dites que s'il y a des pères qui sont absents, parfois il vaut mieux pas qu'ils reviennent.
Il y en a, oui, c'est plutôt bien. Donc comme toujours, hein, le prêt-à-porter, ça marche pas très bien, le sur-mesure marche mieux, mais aider les parents, accompagner les parents, soutenir les parents, créer et imposer des horaires de scolarisation et de socialisation qui ne suppriment pas l'après-midi, qui commence tôt, où on ait un suivi immédiat, où l'absence scolaire est immédiatement repérée et fait l'objet d'une opération de récupération de l'enfant sont des enjeux beaucoup plus importants que la sanction et la punition.
Et j'en reviens d'ailleurs à Issou, hein, dont nous parlions au début de cet entretien. Issou, ce collège, il y a évidemment ce fait très grave par rapport à la laïcité, par rapport à cette, ces femmes dénudées sur ce tableau qui est arrivé en cours jeudi, mais ça arrive dans un contexte où depuis des mois, les professeurs disent qu'ils manquent de tout et qu'ils sont dans un climat à la fois d'insécurité et surtout de manque de moyens terribles. Alain Boer, Edouard Philippe, assez silencieux ces derniers temps, a réagi à la question de Crépol en disant « S'agissant du racisme, comme le disait Peggy, il faut dire ce que l'on voit, mais il faut surtout voir ce que l'on voit. Bien sûr, il y a du racisme en France et il est bien possible, dit-il, qu'il y ait une forme nouvelle de racisme anti-blanc, comme il y a une forme ancienne de racisme anti-noir, anti-arabe, anti-juif. Est-ce qu'il existe en France un racisme anti-blanc ? Ça a été l'un des débats lancés par Crépol.
Mais personne ne pourrait affirmer qu'il n'existe pas. Le racisme, il existe comme un racisme, comme une bêtise, comme une folie, comme une violence, comme une négation des autres. Mais les racismes, au pluriel, se déclenchent généralement sur des a priori et des préjugés qui couvrent l'intégralité des autres populations. Alors il y a 60-75%, 80% des citoyens qui considèrent que la couleur de la peau, la religion, l'origine, la situation sexuelle, l'engagement ne concernent que ceux qui le perçoivent comme tel et qu'on peut faire très bien vivre ensemble, travailler ensemble, etc. Et puis il y a une partie de population qui est toujours pré-raciste, naturellement raciste, antisémite, xénophobe, islamophobe, judéophobe, homophobe, tout ce qu'on veut. Oui, il y a du racisme anti-blanc, c'est pas la surprise de la semaine. Ça existait d'ailleurs dans l'espace colonial, mais là c'était, je dirais, moins du racisme qu'un rejet de l'occupation ou de l'oppression, et ça se transforme naturellement comme un racisme anti-jaune par certains, anti-rouge, anti-vert, anti-bleu. Il y a du racisme anti-blanc comme il y a d'autres racismes. C'est la négation du racisme qui est un problème. Les négationnistes de gauche ne valent pas mieux que les négationnistes de droite.
Alain Boer, directeur du pôle sécurité défense renseignement au CNAM et auteur de Crime au cinéma, l'encyclopédie, c'est aux éditions Grund. Merci à vous d'être venu ce matin. Je rappelle ce que vous venez de nous annoncer après avoir dévoilé les chiffres. Les violences sont en hausse donc de 10% sur l'année 2023 par rapport à il y a un an.
11 premiers mois.
8h53 sur RMC BFM TV.